Laudetur Jesus Christus.
Une rencontre historique pour son deuxième jour en terre irakienne. Le pape François rencontrait ce matin la plus haute autorité musulmane chiite du pays, le grand ayatollah Ali Sistani. Un face-à-face en privé qui s'est tenu il y a une heure à Nadjaf, la ville sainte chiite. Moment particulièrement symbolique, nous y revenons juste après les titres. Autre rendez-vous de cette matinée, la rencontre interreligieuse à Our, dans les plaines d'Abraham. Le père Amir Jagé, dominicain irakien, reviendra sur l'importance du dialogue interreligieux dans ce pays fracturé, encore meurtri, suite à l'occupation de Daesh. Témoignage aussi dans ce journal de l'archevêque chaldéen de Kirkouk, Mgr Mirkis, qui a participé hier à la rencontre du pape avec les évêques, prêtres et religieux d'Irak en la cathédrale syro-catholique de Bagdad. Au sommaire également, la volonté affichée des États-Unis et de l'Union européenne de prendre un nouveau départ dans leurs relations commerciales. Et puis l'Ukraine qui alerte face à une escalade du conflit avec les séparatistes pro-russes ces dernières semaines sur la ligne de front. La trêve en vigueur depuis juillet dernier est menacé selon Kiev, qui appelle Washington et ses alliés européens à apaiser les tensions.
Radio Vatican, le journal Hélène Détombe.
Bonjour, le pape François a entamé sa deuxième journée sur le sol irakien, une journée placée sous le signe du dialogue interreligieux. Il est actuellement 10h30 en Irak, le Saint-Père fait actuellement route vers Nasiriyah. Il est attendu d'ici peu à Our, au cœur des plaines d'Abraham, pour participer à une rencontre interreligieuse. Tôt ce matin, le Saint-Père était à Nadjaf, à 160 km au sud de Bagdad, la capitale, où il a rencontré le grand ayatollah Ali Sistani, la plus haute autorité musulmane. Chiite en Irak. Un échange inédit, Delphine Allaire, qui constitue l'un des moments forts de ce voyage.
Oui, Hélène, car si François est le premier pape à être venu jusqu'en Irak, il est aussi devenu le premier à rencontrer le chef suprême des chiites d'Irak. L'échange à huis clos dans la résidence de l'ayatollah a duré moins d'une heure. Aucune déclaration publique, mais une étape interreligieuse très forte dans ce voyage. Une rencontre qui a suscité l'enthousiasme dans le pays. Elle a été saluée par le président irakien Barham Saleh comme une expression religieuse profonde de modération. Alors, qui est cet ayatollah de 90 ans? L'autorité politique et religieuse de référence dans le pays. Ali el-Sistani a un rôle central dans la construction de la paix. Il a d'ailleurs déjà pris des positions favorables aux minorités chrétiennes d'Irak. Dans plusieurs de ses fatwas, il insiste sur le respect et la protection de toute minorité religieuse et alerte chaque vendredi contre le risque de guerre civile dans le pays. Selon l'ancien nonce apostolique en Irak, qui témoignait sur nos ondes, le cardinal Fernando Filoni, le pape et le grand ayatollah sont un peu comme deux piliers prêts à former un arc, un même pont de paix. Plusieurs figures bibliques communes peuvent aider en ce sens, à Abraham bien sûr, mais aussi le prophète Ézéchiel, très respecté dans cette province de Babylone où il est enterré, dans un sanctuaire partagé entre les trois monothéismes.
Merci Delphine. Dans un peu plus d'une demi-heure débutera donc la rencontre interreligieuse à Our, terre natale d'Abraham, père des trois grands monothéismes, en présence des différentes communautés qui composent le pays, chrétiens, musulmans, juifs, mais aussi yézidis. Le pape prononcera un discours avant un moment de prière. Le dialogue interreligieux représente un grand défi dans ce pays fracturé et meurtri par l'occupation djihadiste de 2014 à 2017. Pour la population et le clergé irakien, c'est ce que souligne le père Amir Jagé, dominicain irakien, qui a fondé le Conseil irakien pour le dialogue interreligieux il y a 10 ans.
On a fait beaucoup de travail, mais malheureusement, par exemple, il y avait des moments très difficiles. Jusqu'en 2013, on avait beaucoup de programmes, par exemple pour les citoyennetés, de programmes de prière ensemble avec les chiites, avec les sunnites. Mais l'arrivée de Daesh en 2014, on était obligé pendant 3 ans d'arrêter toute notre activité parce que c'était tellement violent, on pouvait pas. Et ça, c'est vraiment, le Daesh a essayé de vraiment déchirer et de détruire le tissu social de la société irakienne. Et toute cette violence, ces conflits étaient vraiment comme un bâton dans le roue du dialogue interreligieux. C'est pour cela, je pense, la visite du pape, ça va donner un élan, encourager notre travail de dialogue interreligieux pour nous comme chrétiens, pour les musulmans, sunnites, chiites, les sabéens, les yézidis, yézidis d'avancer dans ce chemin de dialogue. Les Irakiens aujourd'hui, ils aiment beaucoup Pape François. Ils trouvent que quand même quelqu'un qui est ouvert, qui aime les musulmans, ça nous donne vraiment espoir que ce pays-là, ces gens-là, ils veulent vivre en paix. C'est quelque chose qui est très très important.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Cet après-midi, le pape François sera de retour à Bagdad. Il célébrera une messe avec le clergé chaldéen en la cathédrale latine Saint-Joseph. Cette visite du pape sur le sol irakien suscite une grande joie au sein de la population et les chrétiens attendaient cette rencontre, tant souhaitée par Jean-Paul II, avec émotion et ferveur. C'est ce dont témoigne Anan, vierge consacrée de l'église latine, professeure de littérature anglaise à l'université de Bagdad. On l'écoute.
Well, we've been waiting, we Iraqis, for a very long time for this visit.
Nous, les Irakiens, attendions depuis très longtemps cette visite pour nous. C'est une grande joie. Elle est porteuse d'un très grand espoir de paix et de fraternité. Le pape qui vient rendre visite aux siens, à ses gens, à ses fils, ses filles, tel un père, un pasteur, cela revêt un très grand sens. Il vient nous conforter, nous dire je suis avec vous, avec tout ce terrorisme dont nous avons souffert, car nous sommes peu, nous sommes vraiment ceux qui ont été pris pour cible. Mais nous sommes ici, nous resterons, nous sommes une église vivante, cette église restera. Cette visite est très importante pour nous et nous apprécions tellement sa venue qu'il puisse venir nous voir, même si malheureusement il ne sera pas possible à tous de le voir. Cette situation sécuritaire, cette situation sanitaire due au coronavirus, tout cela est triste, mais je souhaiterais lui dire que j'aime vraiment l'acte d'amour dont il témoigne.
Anan, vierge consacrée de l'église latine, interrogée par Anne-Sophie Lemoff à Bagdad. Au premier jour de ce voyage apostolique, le pape s'est adressé ce vendredi aux autorités irakiennes, à la société civile et au corps diplomatique, exhortant à donner la parole aux artisans de paix et à faire taire les armes. Le Saint-Père a également rencontré les évêques, prêtres et religieux d'Irak en la cathédrale syro-catholique de Bagdad, la même où périrent en octobre 2010 48 fidèles dans un attentat djihadiste. L'archevêque chaldéen de Kirkouk, Mgr Youssef Thomas Mirkis, était présent. Il nous a confié sa joie juste après cette rencontre.
Le pape s'est penché sur une église martyre. Les gens étaient très touchés de voir que le Saint-Père avait pour nous des paroles très proches de nous. Lui qui vient de si loin, il était un vrai père pour un peuple qui n'a pas pu sortir depuis 11 ans des marasmes, de ce fanatisme qui s'est développé. Il y a une histoire qui est très blessée, très difficile à assumer. Il fallait vraiment quelqu'un comme le pape François pour oser, parce que souvent devant la souffrance, on n'ose pas. Et je crois que le monde a intérêt à nous regarder autrement et voir comment nous avons vécu tous ces temps de persécution, de souffrance, de calamité. Donc voilà, je crois, ce que nous attendons, c'est un changement de regard et puis que nous puissions être admis parmi les nations, parmi les communautés chrétiennes du monde entier, à notre juste place. Ne nous oubliez pas.
Mgr Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk, un témoignage à retrouver sur notre site internet vaticannews.va, tout comme de nombreux éclairages et entretiens sur ce voyage historique du pape François en Irak. Les États-Unis et l'Europe souhaitent prendre un nouveau départ dans leurs relations commerciales. Annonce faite hier suite à un appel téléphonique, le premier, entre Joe Biden et Ursula von der Leyen. Au cours de cet échange, la présidente de la Commission européenne a proposé un nouveau partenariat au président américain fondé sur des valeurs et principes communs. Les deux dirigeants se sont notamment mis d'accord pour suspendre les droits de douane respectifs qu'ils appliquent dans le cadre du vieux litige entre Boeing et Airbus. Les précisions depuis New York. De Loïc Loury.
Entre les États-Unis et l'Union européenne, le différend date d'octobre 2004. Face à l'Organisation mondiale du commerce, les deux parties s'affrontent depuis cette date sur les aides publiques versées à Boeing d'un côté de l'Atlantique et à Airbus de l'autre, subventions jugées illégales. Un bras de fer qui a pris un nouveau tour en 2019. Donald Trump est alors autorisé à taxer pour 7,5 milliards de dollars de produits européens et en particulier les appareils de l'avionneur Airbus. Un an plus tard, Bruxelles réplique avec des droits de douane Taïwan sur 4 milliards de dollars d'exportations américaines. Depuis, Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche, signant la fin de la doctrine America First et le début de l'apaisement avec les partenaires traditionnels de Washington. La semaine dernière, la future représentante au commerce avait d'ailleurs reconnu la nécessité, disait-elle, pour l'Europe comme pour les États-Unis de s'unir pour trouver une réponse. Celle-ci, pour l'instant, n'est que temporaire, les droits de douane étant levés pour 4 mois seulement. L'occasion toutefois de négociations productives, espère Boeing, pour résoudre ce conflit et apporter, dit le constructeur américain, des règles équitables à cette industrie. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Donald Trump sous le coup d'une nouvelle plainte. Elle a été déposée hier par un élu démocrate du Congrès américain. L'ancien président américain est accusé d'avoir incité ses partisans à une attaque contre le Capitole le 6 janvier dernier. En Birmanie, les manifestants pro-démocratie sont de nouveau dans la rue ce samedi, malgré la répression. À Rangoon, la capitale économique, la police a détruit des barricades et tiré des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes pour disperser des rassemblements. Hier, un homme est décédé à Mandalay, la deuxième ville du pays, après avoir été touché par balle. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce vendredi à huis clos sans parvenir à se mettre d'accord sur une déclaration commune. 54 civils ont été tués dans le pays depuis le coup d'État qui a renversé le 1er février le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Kiev et Moscou se renvoient une fois de plus la balle au sujet de la montée des tensions dans le Donbass depuis quelques semaines. Kiev appelle Washington et ses partenaires européens à ramener le calme dans la région. Moscou dit pour sa part espérer que les autorités ukrainiennes parviendront à prévenir toute escalade. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Des provocations préméditées sont en cours contre les forces armées ukrainiennes pour mettre fin à la trêve en vigueur depuis juillet, la plus longue depuis le déclenchement de la guerre en 2014. Ces accusations émanent du chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a souligné que depuis la mi-février, 8 militaires ukrainiens avaient perdu la vie sur la ligne de front, raison pour laquelle il a exhorté Washington et ses alliés européens à redoubler d'efforts pour apaiser la situation. Un point de vue partagé par le Kremlin, mais pour d'autres raisons, Moscou dit avoir constaté que des soldats ukrainiens pénétraient dans des zones où ils ne devraient pas se trouver. La Russie compte donc sur les garants des accords de Minsk de 2015 pour faire pression sur Kiev afin d'empêcher que ses militaires, de l'armée ukrainienne ou autre selon Moscou, ne se livrent à de nouvelles provocations et contribuent ainsi à une nouvelle escalade. Depuis le début des hostilités, ce conflit a coûté la vie à plus de 13 000 personnes et les deux parties s'accusent mutuellement de ne pas respecter leurs obligations découlant de la signature des accords de Minsk. Une situation qui illustre tristement cette nouvelle passe d'armes entre Kiev et Moscou. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
La Russie et la Chine ont bloqué hier soir l'adoption d'une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU réclamant la fin des violences dans la région du Tigré en Éthiopie. Le projet de texte en débat depuis 2 jours est donc abandonné. Pékin et Moscou, qui ne se sont pas exprimés, considèrent que le conflit armé au Tigré, qui a débuté début novembre, relève d'une affaire intérieure. Hier, l'organisation HRW a affirmé que les soldats érythréens avaient tué des centaines de civils, y compris des enfants, dans un massacre perpétré en novembre à Aksum, dans la région éthiopienne du Tigré. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes ce samedi. Ils doivent renouveler leurs 255 députés. Un scrutin important. C'est la première fois depuis 10 ans que toutes les grandes formations politiques participent à ces législatives. L'opposition avait boycotté la présidentielle d'octobre 2020, marquée par des violences ayant fait 87 morts et près de 500 blessés. La campagne électorale qui s'est achevée jeudi s'est déroulée dans le calme. Le Sénégal est toujours le théâtre d'affrontements entre partisans de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de l'ordre. 4 personnes sont mortes dans des affrontements ayant opposé depuis mercredi ces forces de l'ordre à des manifestants qui réclamaient la libération d'Ousmane Sonko. Le représentant des Nations Unies en Afrique de l'Ouest a lancé hier un appel au calme. Ousmane Sonko a été arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait en cortège au tribunal où il était convoqué pour répondre à des accusations de viol, des accusations qu'il rejette catégoriquement. Il doit être présenté à nouveau au juge lundi, selon ses avocats. Au Brésil, la situation sanitaire s'aggrave de jour en jour. Avec plus de 260 000 morts de la Covid-19, l'immense pays latino-américain est de plus en plus endeuillé au monde après les États-Unis. Et selon les épidémiologistes, le pire est encore à venir. En Russie, en revanche, la situation s'améliore quelque peu, notamment à Moscou. Le maire de la capitale a annoncé hier un nouvel allègement des mesures de lutte contre le coronavirus. Désormais, les personnes de plus de 65 ans ne sont plus soumises à un confinement obligatoire. noire. Le Kremlin compte sur la campagne de vaccination qui se poursuit pour vaincre l'épidémie. Le vaccin utilisé est le Sputnik V. Il est actuellement soumis à l'examen de l'Agence européenne des médicaments. Les autorités russes se sont dit prêtes à fournir des doses à 50 millions d'Européens dès le mois de juin. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. On se retrouve à 13h. Très belle matinée. Au revoir.